notre espérance. Dieu nous a équipés dans les Écritures pour apprendre à connaître ce qui s'en vient. Dieu a voulu nous renseigner sur les événements futurs. Le sujet qu'on appelle l'eschatologie peut des fois juste stimuler notre curiosité ou notre intellect ou on est un peu curieux de voir ce qui se passe dans le monde. On en a vu des bribes la semaine dernière avec ce qui se passe en Israël puis tout ça. Puis évidemment, il y a des signes que l'on voit présentement qui semblent être annoncés par les Écritures. Pas plus qu'ils semblent, mais ils sont annoncés par les Écritures. Mais ça devrait être plus qu'un sujet qui stimule notre curiosité. Ça devrait être quelque chose qui alimente notre espérance, notre espoir de vouloir savoir plus. Et vous avez dit l'enlèvement, le prochain événement, le prochain point tournant pour nous en tant que croyants, c'est l'enlèvement. Et ça, qu'est-ce qu'on attend avant l'enlèvement? Qu'est-ce qui doit arriver avant l'enlèvement? L'apostasie. L'enlèvement là, peut arriver ce soir. Il peut arriver là. Il peut arriver demain. Il peut arriver dans un mois. Ça veut dire qu'il y a des signes qui annoncent ça. Mais comment est-ce que dans le plan de Dieu, il a placé les signes? Puis à quelle intensité de tels signes doit arriver pour que son enlèvement arrive? On ne le sait pas. Mais une chose que l'on sait, c'est que la prochaine chose qui nous attend, c'est l'enlèvement. Et ça, c'est ce qui attend l'Église. Et quand ça va se produire? Si je parlais du retour du Seigneur, bien là, puis quand on parle l'enlèvement et le retour, c'est deux choses distinctes. Hein? On va voir tantôt des distinctions. Mais le retour du Seigneur, si je vous dis qu'est-ce qu'on attend avant le retour du Seigneur, bien, vous pourriez me dire l'enlèvement. On va attendre de toute évidence l'apostasie à un point où ce que l'Antéchrist va détourner l'attention générale vers lui, là. Et puis, il va y avoir un temple de reconstruit entre-temps. Alors, il y a des choses dans la tribulation qui sont évidentes, qui doivent arriver. Le retour du Seigneur va se faire quand ces signes-là seront accomplis. Mais l'enlèvement, il n'y a rien d'autre qu'on attend, c'est-à-dire qu'on va voir les signes s'intensifier, mais ça peut arriver n'importe quand. L'enlèvement est quelque chose que l'Église, on doit chérir, qu'on doit avoir hâte de vivre, de voir, parce que c'est l'époux qui vient chercher son Église. C'est un moment chéri. C'est l'illustration que Dieu nous a donnée, là, je ne sais pas si vous, dépendamment si vous êtes marié ou vous ne l'êtes pas, mais vous êtes capable de comprendre le concept, de voir la fiancée qui attend son époux, qui est sur le point d'arriver, de venir la chercher pour voir son époux face à face, pour avoir une relation directement avec, face à face, comme je dis. Alors, c'est ça qu'on attend. Je vais juste vous citer Jean 14. Jésus, quand il était sur la terre, a dit à ses disciples qu'il allait quitter. Puis ça l'attristait, les disciples, parce que les disciples, ils étaient avec Jésus. Et puis, votre cœur, il est troublé parce que je retourne. Puis il faut que je retourne. Mais Jésus nous a donné quand même une espérance. Il nous a quand même donné quelque chose qu'il allait faire. Il n'allait pas aller au ciel pour se croiser les bras, puis attendre, puis laisser passer le temps. Mais qu'est-ce qu'il allait faire en retournant au ciel? Nous préparer une place. Ça, c'est vraiment l'illustration de l'époux, de l'épouse, qu'ils sont unis, ils sont mariés, mais que l'époux est parti préparer une place et qu'il va venir chercher son épouse pour après ça être ensemble. Je vais juste vous citer Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, là, c'est le désir de Jésus. Il veut être avec nous afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu, si nous, on a ce désir-là que d'être dans la présence immédiate de Dieu, de Jésus, c'est lui le premier qui a eu ce désir-là avec vous, avec moi. C'est pour ça qu'il est venu nous sauver. Il est parti nous préparer une place. Alors, l'enlèvement de l'Église n'est pas un fait isolé dans les Écritures, c'est-à-dire le concept de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On parle de l'enlèvement de l'Église, mais le concept de l'enlèvement est déjà apparu dans les Écritures précédemment. Pouvez-vous nous nommer quelqu'un qui a été enlevé? Enoch, exactement. Genèse 5, je vais vous citer avant qu'on aille plus loin. 21-24, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Hey, il est fidèle, hein? Persévérance, 300 ans. Et il a marché avec Dieu et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et puis Hébreux cite Hébreux 11:5 parle que Enoch a été enlevé, qui a été pris. La version j'avais noté la version synodale qui était intéressante, mais j'avais peut-être juste pris dans ma tête, puis finalement je l'avais pas écrit. Mais la version synodale dit quelque chose comme ne fut plus trouvé, comme si il y avait un réseau, on imagine, cet homme-là, là, puis il était plus trouvé. Il est où, Enoch? Il est parti où? Et il était plus là. Un autre homme qui a été enlevé? Élie a été enlevé. Combien de gens est-ce qu'ils l'ont vu partir? Un. Alors, il n'y a pas une grosse cohue. Deux rois, 2:11-12, je vais vous le citer. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Élie a été enlevé comme ça, sur un char de feu. Une autre personne qui a été enlevée? Jésus. Jésus a été enlevé. Moïse n'a pas été enlevé, mais il y a une histoire qui concerne Moïse sur la dispute de son corps, là, moi, il a été enterré, mais c'est ça, il y a une dispute avec Satan et Michael, je pense. C'est ça, c'est dans Jude qu'on dit ça, je pense. Mais bref, une autre personne qui a été enlevée, c'est Jésus. Et ce qu'on peut relever, c'est que Jésus n'a pas été élevé devant toute la multitude du peuple qui ont vu Jésus monter, mais devant les disciples. Acte 1, 9 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Ô homme, Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus va revenir de la même manière. Jésus était le prémisse de ce qui devait se produire, c'est-à-dire qu'il est monté au ciel. Et de la même façon, ceux qui sont en Christ vont monter aussi au ciel, seront enlevés à sa rencontre. Jésus vient nous chercher bientôt. Jésus vient nous chercher bientôt. Ça, c'est notre espérance. Est-ce qu'on va le vivre de notre mort ou de notre vivant? J'ai une forte espérance de le vivre de mon vivant. Mais comme je vous ai déjà partagé, même si je mourrais, j'ai la même espérance, la même assurance que Jésus ne m'oubliera pas. Que Dieu ne m'oubliera pas. Il m'a préparé une place. Et puis, si je meurs, bien, je vais monter avant vous, qui êtes vivants. C'est ce que les Écritures nous disent. On va se poser deux questions ce soir. Et là, j'aimerais que ça soit, pas nécessairement trop théorique, mais j'aimerais que ça, comme je dis, que ça stimule notre espérance. Dans le texte qu'on va lire, ça dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les gens qui sont morts. Évidemment, il y a un aspect de pas être dans l'ignorance. Et je crois que, pour connaître la plupart d'entre vous, vous avez probablement déjà une très bonne connaissance de l'enlèvement, de ce qui s'en vient, des tribulations. Et puis, peut-être qu'on va se rafraîchir la mémoire, mais au-delà de juste se rafraîchir la mémoire, mais que ça nous emmène à vivre ce soir, à vivre demain pour Dieu, à marcher pour lui. Enoch, il marchait sur la terre, il a vécu avec persévérance, il marchait avec son Dieu pendant 300 ans, puis il a été enlevé. Mais peut-être qu'on va avoir cette même bénédiction, je dis peut-être, de vivre sur la terre, là, mais que ça nous encourage à marcher aujourd'hui. J'aimerais faire un mot de prière. Après ça, on va lire deux textes et puis j'ai une petite vidéo de 1 minute à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on va voir. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es notre Dieu. Et on est vraiment reconnaissant de ce que tu nous as laissé dans tes Écritures. Seigneur, tu veux te révéler à nous. Tu veux te faire connaître. Tu veux faire connaître ton plan, Dieu. Tu nous conduis. Tu nous demandes de te suivre. Et tu ne nous demandes pas de te suivre à l'aveugle sans la foi, mais tu nous informes, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous convaincs et tu nous conduis, Seigneur, efficacement. Et que ce sujet ce soir, Seigneur, de l'enlèvement, mais vienne toucher nos cœurs, qui vienne alimenter notre espérance, qui nous apporte à lever la tête et les yeux, toujours dans l'espoir de te voir, Seigneur, venir nous chercher. Alors, bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole ce soir. En nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Est-ce que tu penses que ça va marcher, Richard? OK. OK. Avant, juste qu'on parte la vidéo, j'aimerais qu'on fasse deux textes. Un volontaire qui voudrait me lire dans Matthieu 24, 40 et 41, et un autre dans Luc 17, 34 à 36. Quelqu'un pour Matthieu 24? OK, Daniel, verset 40, 41. Un autre pour Luc. Richard, s'il te plaît, chapitre 17, verset 34 à 36. Tu peux y aller, Daniel. Oui, chapitre 24, verset 40 et 41. Veillez donc. Je ne sais pas quel jour le Seigneur va venir. Richard, s'il te plaît. Luc 17, 34 et 36. OK. Déjà, cette parole de Jésus qui annonce qu'on doit veiller. Un sera pris, l'autre sera laissé. On va revenir sur l'enlèvement. Je vais juste présenter un vidéo que j'avais vu il y a quelques années, que j'avais bien aimé. Veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître va venir nous chercher. C'est juste pour montrer, c'est intéressant de voir le petit clip, de voir que comment l'enlèvement peut se produire. Évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des gens qui seront laissés derrière. Il y a des... on va voir les détails. Je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens 4. On va lire les versets 13 à 18. On va lire le texte et puis après ça, je vais vous demander ce que vous avez observé du texte. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'enlèvement? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur les événements? Les détails de ce qui doit se produire. On va s'attarder à quelques détails. Alors, la première chose que l'on voit ce soir, la première question, j'ai dit qu'on verrait deux questions. Première des choses, comment l'enlèvement se produira-t-il? Quels sont les éléments de l'enlèvement en question? Alors, un volontaire qui voudrait lire bien fort, s'il vous plaît, le verset 13 jusqu'à 18. Danny. jusqu'à 18. OK. Quel sentiment est-ce que ça éveille en vous, ce texte-là? Qu'est-ce que ça éveille en vous? De l'espoir, certainement, oui. Quelque chose de subi, oui. Quelque chose d'inattendu, OK. OK, quelque chose de rapide. OK, regardez le premier verset. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On a une espérance à cause de Jésus, à cause de... Même si on meurt, il y a une espérance par la suite, par après, de quelque chose qui va se produire. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors, si Jésus est mort et ressuscité, l'argument qu'il est en train de dire, c'est que ceux qui sont en Christ, ceux qui lui appartiennent, si Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, lui-même disait qu'il allait venir nous chercher, mais de la même façon, nous aussi, on va ressusciter. C'est une grande espérance que l'on a que de penser que notre vie sur la terre ne se limite pas aux quelques jours que l'on vit présentement, mais qu'elle a une perspective beaucoup plus grande, une perspective éternelle finalement. Parce que si je meurs aujourd'hui, mais je continue quand même d'avoir cette relation-là avec Dieu, parce que j'ai la vie. OK, quels sont les éléments que l'on peut apprendre sur l'enlèvement? Quels sont des détails qu'on peut apprendre, comme je disais, sur l'enlèvement? Une première chose que l'on voit, qu'est-ce que l'on voit? Comment est-ce que l'enlèvement va se produire? Comment? Oui. À un signal donné. Dieu ne laisse pas au hasard. C'est pas sans ordre. Parce que quand Dieu va appeler, quand que Dieu va déterminer, et le jour est déjà déterminé, mais quand que Dieu va dire que maintenant l'enlèvement se produit, ça va être glorieux. Est-ce que les gens vont entendre ce signal-là? Qu'est-ce que les gens autour de... Je ne les ai pas tous notés les exemples que j'avais, là, mais c'est intéressant de voir que des fois Dieu est intervenu, comme par exemple sur Saul. Il a vu Jésus, il a entendu, puis qu'est-ce que les gens autour, eux autres, voyaient? Du bruit, mais c'était confus un peu, puis celui qui a été appelé, Paul, mais entendait clairement, il voyait clairement. On voit des prophètes qui, des fois, entendaient la voix de Dieu, puis c'était du tonnerre pour eux. Mais Dieu a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra. La trompette de Dieu descendra du ciel. Un volontaire qui voudrait tourner dans 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. Vous pouvez même tous tourner puis garder un doigt. On va s'y référer une fois de temps en temps. Un volontaire qui voudrait amener le verset de 1 Corinthiens 15, le verset 52, s'il vous plaît. OK, Serge. Oui. Et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, il va y avoir la trompette. La trompette va sonner et les morts vont ressusciter. L'enlèvement de l'Église ne se fera pas par hasard, n'importe quand. C'est un grand événement et c'est un grand événement pivot dans le plan de Dieu pour l'avenir, puisqu'il doit déclencher le reste de la fin. Quoi d'autre aussi, si on revient garder un doigt dans 1 Corinthiens 15, et quoi d'autre aussi que l'on voit dans 1 Thessaloniciens, comment est-ce que l'enlèvement doit se produire? On a parlé à un signal donné. Quoi d'autre aussi? au son de la trompette, c'est le signal en question qui a été donné. En un instant, en un clin d'œil, à quelle vitesse que ça va se produire? Je ne sais pas si vous êtes capable de chronométrer votre clin d'œil. Mais imaginez que vous étirez la sauce, puis vous dites, « OK, moi, quand j'entends la trompette, je vais faire ma prière de repentance. » Vous n'aurez pas le temps. Mais en un instant, en un clin d'œil, qu'est-ce que ça évoque pour nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? On doit veiller. On doit être prêt. En un instant, en un clin d'œil, on voyait sur la vidéo, le train passe, puis l'autre personne n'est plus là. Le mari tenait la femme de la main de sa femme, puis tout ce qui reste, finalement, c'est son alliance dans la main. En un clin d'œil, les choses vont se produire. Ça va être très rapide. Verset... Est-ce que j'ai manqué, t'as dit? 16? Oui, c'est ça. Avec le son, avec la voix d'un archange au son de la trompette, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voyait tantôt dans 1 Corinthiens aussi 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, comme on voyait. L'enlèvement de l'Église. Oui. Est-ce que les gens vont l'entendre? Je sais pas. Mais je pense que de toute façon, je vis pas nécessairement avec le fardeau. Est-ce que je vais reconnaître le son, la trompette en question pour être prêt? Parce que y a un temps donné. Et le temps donné est donné par Dieu et pour Dieu. Et nous, on suit ce que Dieu va faire. Est-ce que les gens vont l'entendre? Je sais pas. Est-ce que les gens vont entendre un tonnerre ou, tu sais, comme c'est arrivé déjà dans les Écritures dans le passé? Ça sera peut-être pas distinct. Mais c'est certain que à la fin, tantôt, je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça va laisser derrière nous, l'enlèvement? Qu'est-ce que ça va laisser sur la terre, l'enlèvement? On reviendra sur ça un petit peu tantôt, mais en un instant. Alors, si je fais juste résumer rapidement, mettons, si on lit le verset 16, on voit que c'est Jésus qui va venir chercher. Et entre, comme je disais tantôt, la venue de Christ pour venir chercher son Église est distincte de son apparition sur la terre. Et la distinction, c'est quoi? Il vient sur les nuées pour nous chercher. Comparativement au temps où, quand ça va être son retour, il va venir poser les pieds sur la terre. Verset 17, je peux le relire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme on vient de dire, sur les nuées. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La façon que Jésus revient, la façon que l'époux revient chercher son Église est différente que la façon que le juge revient rétablir sa justice sur la terre. Jésus va revenir poser les pieds sur la terre et ça va être un moment d'effroi pour les nations, un moment de soulagement pour Israël, mais c'est un moment qui est distinct. Et où on sera, nous, quand que Jésus va revenir? On sera avec lui. Alors, c'est pour ça que l'enlèvement et le retour sont deux moments distincts. Peut-être que vous dites, ben, ça fait longtemps qu'on sait ça, mais c'est important de croire et de voir que c'est deux choses différentes. Comment est-ce que Dieu agit avec son Église, puis comment est-ce qu'il va venir rétablir sa justice aussi sur la terre, en venant régner sur la terre. Je fais juste vous lire Zacharie 14, versets 4 et 5. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez et... vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Je crois que Dieu va nous... quand que Jésus va revenir, on va le suivre parce qu'on aura été aussi enlevé précédemment. Alors, si on résume ce qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 4, l'enlèvement est distinct de son retour. Ça sera donné à un signal précis et Jésus lui-même va venir chercher les siens. Jésus lui-même va venir nous chercher. Il ne va pas envoyer... Dans les Écritures, on voit des anges qui sont envoyés pour faire la moisson. On voit l'intervention des anges, mais ultimement, l'époux vient chercher son Église. Il va venir nous rencontrer. Oui, Jean-Pierre. Ouais. 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 On sera toujours avec lui. Ouais. On ne sera plus séparés de notre maître. On ne sera plus séparés de l'époux. Ouais. Il va y avoir une relation parfaite. Et un accomplissement final du péché, où est-ce qu'il n'y en aura plus. Et nous serons, effectivement, verset 17, c'est pas moi qui ai répondu, mais les Écritures répondent eux-mêmes. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec lui. Pour toujours. Hey, imaginez. Toujours avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez réservé votre marche. Hein? Des fois, je dis ça à Dieu. Je dis, j'ai hâte d'aller marcher avec toi. Aller prendre une marche avec Jésus, tu sais, sur le bord de l'eau ou à quelque part. Là. Mais marcher avec Dieu, parler avec lui. Pour toujours, j'imagine qu'on va avoir le temps. Alors, Jésus va revenir lui-même. Et tous les croyants, tous les croyants, disons, commençons par ça, de l'Église, qui appartiennent à l'Église, seront enlevés aussi. C'est l'Église, toute l'Église sera enlevée, sera à sa rencontre. Et on vient de voir, les morts, premièrement, vont ressusciter. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont vivants présentement sur la terre? Si l'enlèvement se produit ce soir, comment ça se passe dans l'ordre? Les morts ressuscitent. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on meure avant d'être ressuscité? On va être transformés. On a lu tantôt dans... Qu'est-ce que ça dit, Yvan? Ouais. Paul, il dit au verset 52, je pense qu'on lisait tantôt dans Corinthiens 15, « Et nous, nous serons changés. » Alors, on va être changés en un instant. Tout ça va se produire rapidement. Et Dieu ne nous échappera pas. Là. Il va pas, il sera pas dépourvu de dire, « Qu'est-ce que je fais avec les vivants? Il faut qu'ils ressuscitent ou il faut qu'ils aient leur corps glorifié. » Nous serons changés. C'est intéressant de voir, c'était quoi l'espérance de Paul, lui? Les morts vont ressusciter, puis nous, nous serons changés. Moi, je serai changé, je vais faire partie des vivants qui vont vivre l'enlèvement. Mais c'était certainement une espérance louable. Alors, les vivants seront enlevés par la suite aussi. Et nous le rencontrerons sur des nuées. Et je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que, comme tous les chefs, comme ce qu'on peut imaginer, les chefs, quand ils veulent rassembler du monde, ils s'en vont dans un coin sur la terre, rassemblent leurs gens. Pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que Jésus nous fait rassembler dans les nuées? Pourquoi est-ce qu'il nous fait rassembler à mi-chemin? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu nous chercher sur la terre? Vous n'allez peut-être pas trouver un verset biblique là, spécifique pourquoi il ne vient pas nous chercher sur la terre. Mais c'est quoi son intention en venant nous chercher à mi-chemin? Il va venir à notre rencontre. Nous aussi, on va aller à sa rencontre. Oui, Hugues? C'est pas t'avancer, OK, t'avais plein d'expressions, en tout cas. Oui, Yvan? Oui? OK. Alors, il ne sera pas vu. Il ne va pas avoir une manifestation de gloire pour toute la terre, effectivement. Mais une manifestation pour l'Église. Et j'aimais bien, quand je lisais Pache, j'aimais bien René Pache, son explication de pourquoi est-ce qu'on va à sa rencontre. L'Église n'est pas de ce monde. Elle est spirituelle, elle est d'en haut. Et donc, naturel que notre divin époux vienne arracher son Église. Et le mot « arracher » est vraiment le sens. Hein? Il va venir nous kidnapper, il va venir nous « rapture » en anglais, il va venir nous enlever de la terre, de cette terre, où elle est étrangère et voyageuse sur la terre. L'Église, présentement, nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers. Et où notre place que Dieu nous a préparée? Il nous a préparé là où est-ce qu'il est allé. Et on va aller à sa rencontre. Et je trouve intéressant de voir que l'Église, nous, les enfants de Dieu, on n'est pas de ce monde, mais on a un lien spirituel avec Dieu. Jésus va venir nous chercher sur des nuées et on va aller à sa rencontre. C'est un moment, quand on imagine cet événement-là, j'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de voir comment les choses vont se passer puis de l'expérimenter vraiment. Oui, Jean-Pierre, ça déborde encore, hein? Oui, absolument. Vous souvenez-vous, je vous avais déjà montré une vidéo il y a plusieurs mois, là, justement sur l'enlèvement. Et puis, on voit dans l'église le pasteur qui prêche. Soyez prêts parce qu'à tout moment, on est tout genre. Là, puis là, bang, on entend un gros tonnerre. Puis là, tout à coup, il reste comme une dizaine de personnes dans l'église. Ça demande ce qui vient de se passer. Puis les bancs sont vides. Mais c'est ça, effectivement. Voir les gens qui arrivent à l'église, puis, pas de queue ce matin. Puis évidemment, on va laisser des gens derrière nous. On va laisser des choses derrière nous. Alors, on va aller à la rencontre sur des nuées et tout cela va se passer en un instant. Qu'est-ce que vous allez être en train de faire à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce que Enoch faisait quand que Dieu est venu le chercher? Qu'est-ce que Élie faisait quand il est venu le chercher? Qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus va venir vous chercher, quand il va venir chercher son Église? Comment est-ce que l'on vit présentement sur la terre? Si on disait tantôt que le prochain événement pivot majeur qu'on attend, c'est l'enlèvement, ça peut se produire ce soir, demain, dans un mois, qu'est-ce que vous faites présentement? Est-ce qu'on est en règle? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on marche avec fidélité? Est-ce que mon panier de fruits est rempli pour les apporter à Dieu, pour le glorifier? Évidemment, Dieu, les fruits que l'on porte présentement sur la terre glorifient déjà présentement Dieu. Mais est-ce que je suis prêt à le rencontrer présentement? Et qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement? On va un petit peu plus loin, là. On va voir tantôt quand est-ce que ça va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement? Pour nous, l'Église, une fois qu'on est enlevé, là, on est dans la présence de Jésus, on est avec lui. C'est quoi le prochain événement? Les noces de l'agneau. Puis entre l'enlèvement et les noces de l'agneau, qu'est-ce qui se passe? Pas le jugement, mais le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, le tribunal de Christ. Paul, il dit, soit qu'on vive, soit qu'on meure, mais que présentement, là, qu'on vive pour plaire à Dieu. Parce qu'on aura à rendre compte, chacun d'entre nous, pour le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans ce corps. Et là, on va passer devant le tribunal de Christ et on devra en parler à Dieu, on devra en parler avec Jésus. Et ça ne sera pas un jugement. C'est très distinct du grand trône blanc, le tribunal de Christ. Mais c'est un moment où ce que on a, par exemple, à parler avec notre maître puis à lui rendre compte. Comment j'ai utilisé mon temps? Comment j'ai utilisé mon argent? Comment j'ai utilisé mes dons? Comment j'ai utilisé la vie que Dieu m'a donnée sur la terre pour lui? Alors, j'aurai à rendre compte de ça à Jésus. Est-ce que l'enlèvement sera vu des habitants de la terre? Élie a été vu par Élisée. Enoch, on ne le trouva plus, comme je disais tantôt. Jésus a été enlevé sous les yeux de ses disciples. Mais il y aura évidemment des places vides qui seront laissées. Comment est-ce que ces choses-là vont se développer? Comment est-ce que les gens sur la terre vont justifier ces absences-là? J'avais un professeur à l'école biblique qui, lui, croyait... On parle de l'Antéchrist qui va user de beaucoup de mensonges puis de choses pour tromper. Puis lui, sa théorie, sans dire que il était dogmatique sur ça, pour lui, il disait que l'Antéchrist allait probablement s'attribuer le fait qu'il a éliminé les gens qui le dérangeaient. Puis que ceux qui ne suivaient pas, mais qui pouvaient en faire autant. Mais qu'il allait s'attribuer ce mensonge-là pour se donner un pouvoir. Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Mais évidemment, il y aura des bancs vides derrière nous. Et j'espère que vous allez laisser votre banc vide. J'espère que vous ne serez pas encore assis quand l'enlèvement va avoir lieu. Quand l'enlèvement va avoir lieu, et là, il me reste 5 minutes pour ça. Et là, je ne parle pas de la date, mais je parle du moment. Okay? Parce que j'ai pas de date pour vous. Mais comme pour le retour, j'en ai pas plus. Mais quoi croire? Est-ce que vous êtes pré-trib, mid-trib, post-trib? Est-ce que vous... Ou vous êtes amillénariste? Alors, tous les grands mots pour expliquer différentes doctrines. Si on parle d'une position pré-mille, c'est-à-dire que vous croyez que Jésus va revenir rétablir son royaume sur la terre d'une façon physique et concrète. C'est un royaume terrestre, un royaume littéral. Vous êtes pré-mille. Et avant ça, devra arriver la tribulation. On va s'attarder un peu plus sur les événements. Je vous invite à tourner déjà dans Daniel 9. On va accélérer le processus un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais, première des choses, OK? Il est certain que l'Église n'échappera pas à tout jugement. Il est certain que l'Église va vivre, quand je parle de l'Église, c'est évidemment les croyants qui sont dans l'Église, puis ça nous inclut, bien, on aura à passer par des épreuves. On aura à passer par des tribulations. Est-ce que ce sera la grande tribulation? On reviendra un petit peu sur ça. Mais l'idée de vouloir absolument ne pas vivre les tribulations par peur d'être un peu éprouvé, bien, ça ne marche pas parce que de toute façon, Dieu éprouve son Église. Dieu va donner des tribulations à son Église aussi. Je vais juste vous citer Pierre. Pierre, il dit dans 1 Pierre 4, 17, il dit que le jugement de Dieu doit commencer par sa maison, par la maison de Dieu. Alors, il y a une mise à l'épreuve que Dieu donne sur son Église pour que justement qu'on soit toujours enflammé pour lui, pour qu'on soit toujours les manches relevées, puis qu'on marche. Mais si on lisait le verset 18 de ce que je viens de vous citer, ça dit quelque chose comme, si Dieu traite comme ça ses enfants, imaginez les injustes. Comment est-ce que Dieu va agir avec? Alors, Dieu, le jugement de Dieu commence par sa maison. Mais imaginez les injustes. Ça va être beaucoup plus grand. Première des choses, l'Église n'échappera pas à toute forme de jugement. Et deuxième chose, certains élus subiront même la tribulation. Certains élus seront dans la tribulation. Est-ce que ça, c'est des élus de l'Église? Je croirais que non. Mais il y a des élus qui vont professer le nom de Jésus, le nom de Christ, et qui seront dans la tribulation et qui vont souffrir. On en avait vu dimanche dernier, des gens qui ont été décapités, des gens qui ont été immolés et qui vont aller au ciel rejoindre leur Sauveur. Je vais juste vous lire. Je ne lirai pas, j'ai pas le temps. On va continuer d'avancer dans Daniel 9. Daniel 9 est un texte clé que probablement vous connaissez sur des prophéties. Daniel est un peu l'apocalypse de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'éléments futurs qui sont annoncés. Un volontaire qui voudrait me lire à partir du verset... En fait, je voulais juste vous dire que je crois que l'Église sera enlevée avant les tribulations. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour lequel je suis prêt à mourir? Non, je ne suis pas prêt à mourir pour ça. Mais je crois quand même qu'on sera enlevé avant l'Église. Et puis, j'aurais pu apporter... j'avais 17 arguments défendant l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Puis, j'en ai apporté un. On va regarder un texte. Et puis, mais je voulais juste dire aussi que les signes de la fin qu'on parlait sont des signes progressifs et qui font partie d'une emphase vers le jugement que Dieu fait sur la terre. On parle des sceaux, des coupes, des trompettes, et tout ça est une intensification du jugement de Dieu sur la terre. Est-ce que présentement, on vit les sceaux? Mais je crois que oui. Mais évidemment, quand la tribulation va commencer, il y aura quelque chose de très spécifique qui sera fait sur la terre pour son peuple. Et bien qu'il y ait une période de tribulation déterminée, ce que l'on va voir dans Daniel 9, qui est donnée pour la dernière semaine, une période spécifique, il faut pas nécessairement tout couper au couteau. Comme je disais, quand on lit Matthieu 24, Jésus, quand il nous présente les événements de la fin, les événements s'enchaînent, et un après l'autre. Et les Écritures, les prophéties du passé font des fois une superposition de prophéties, comme par exemple la venue de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un serviteur, mais en même temps d'un roi. Alors les gens s'attendaient à un roi, mais il y avait deux différentes choses. Mais Jésus parle des prophéties. les prophéties s'enchaînent librement, sans nécessairement avoir tout coupé au couteau. Et bon, ceci étant dit, on va lire les versets 24 à 27 de Daniel 9. Est-ce que, avant qu'on lise, est-ce que vous avez déjà entendu parler des 70 semaines de Daniel? OK, c'est ce qu'on va résumer. Quelqu'un qui veut me le résumer rapidement pour que ça éveille déjà notre intelligence avant de le lire? Quelles sont les 70 semaines? Chaque semaine, ce qu'on va lire, c'est que chaque semaine est 7 années. Une semaine, ça veut dire 7, et c'est pour 7 années. Alors, on parle de 70 semaines, 70 fois 7 ans. OK, mais on va le lire, puis on va regarder quelques éléments du texte. Un volontaire, 24 à 27? Merci, Claude. OK. Qu'est-ce que l'on apprend sur les 70 semaines? Si on résume rapidement, qu'est-ce que l'on voit? OK. 62, 7. Puis il en reste une à la fin. Est-ce que Céline, qu'est-ce que ça allait dire? C'est l'histoire du peuple d'Israël. Regardez le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur qui? Sur ton peuple. Et sur quoi d'autre? Sur ta ville sainte. Dans quel but? Pourquoi est-ce que Dieu a fixé 70 semaines? Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Le saint des saints. Alors, Dieu a donné 70 semaines sur son peuple, sur la ville sainte. Et ça dit que, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, on parle de Néhémie, hein, ces temps-ci, des fois le matin, mais il y a eu autant justement de Néhémie où ce que la ville allait être reconstruite. Est-ce que ça s'est bien passé, cette reconstruction-là? Est-ce que ça s'est fait sans problème? Non, ils reconstruisaient avec une épée puis une truelle. Ça a été des temps difficiles. Alors, sera rebâti jusqu'au Messie, le Consolateur. Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront passés. Alors, il y a 69 semaines qui sont déjà écoulées jusqu'au Messie, jusqu'au moment qu'il soit retranché. Qu'est-ce qui se passe la dernière semaine? La dernière semaine, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Quand on lit l'Apocalypse, on voit aussi qu'on parle des temps, on parle de la moitié d'un temps, on parle de jours et puis de mois. Et si on parle de la dernière semaine qui est la tribulation, la dernière période qui est la grande tribulation. Alors la question qu'on se posait, c'est quand est-ce que l'enlèvement aura lieu si la dernière semaine est donnée pour, par exemple, pour la ville sainte, pour ton peuple, dans le but de faire cesser les transgressions, je crois que la dernière semaine est pour finaliser l'accomplissement de la prophétie sur le peuple de Dieu. Dieu a permis que toutes les nations entrent dans le salut, et dans la dernière période, la dernière 70e semaine, elle sera pour, à mon avis, pour le peuple, pour la ville sainte, pour finir l'accomplissement que Dieu a donné. Est-ce que Dieu peut nous faire aller jusqu'au milieu de la tribulation? Bien, évidemment, il peut faire ce qu'il veut. Mais je crois que la 70e semaine est vraiment pour le peuple de Dieu. Est-ce que tout ce qui est maintenant donné au peuple de Dieu est spirituellement imputé à l'Église? Non. Il y a des choses qui restent à l'Église, il y a des promesses qui restent à Israël, et il y a des choses qui sont données à l'Église. Évidemment, il y a des accomplissements qui se donnent aussi à Israël. Mais est-ce que tout est donné à l'Église? Non. Mais Dieu n'a pas fini avec son peuple. Juste terminer avec quelques questions. Mais si en fait, si on regarde même les événements, les jugements qu'on voit sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait avant le jugement de Sodome et Gomorre? Il a averti, j'ai entendu, est-ce qu'il l'a dit? Lot, c'est ça. Il a fait sortir Lot. Et puis pourtant, Abraham, il en voulait plus, Dieu. Il y en a sûrement 20, il y en a sûrement 10. Puis finalement, il y en avait un, il est sorti avec sa femme. Et puis finalement, il restait rien avec Lot. Qu'est-ce que Dieu a fait avant le jugement du déluge? Il a protégé le juste. C'est le caractère de Dieu que l'on voit que Dieu se préserve un reste. Vous souvenez-vous d'Élie qui pensait qu'il était tout seul, et puis qui était en dépression, qui était dans sa grotte, puis Dieu il dit, je me suis préservé encore des prophètes. Élie, t'es pas tout seul. Le caractère que l'on voit de Dieu, c'est que Dieu est toujours présent sur la terre, que Dieu va nous protéger, que Dieu va sortir le juste de l'iniquité. Il va venir le sortir avant le jugement aussi, parce que Sodome et Gomorre a été détruite, la terre a été détruite, mais Dieu a préservé, par exemple, les justes. Avec cette question de l'enlèvement, qui peut se produire n'importe quand, à partir d'aujourd'hui, et qui va se produire en un instant, Jésus va venir nous rencontrer lui-même sur des nuées. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'attendre avec impatience ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, présentement, m'empêche de chérir cet événement-là parce que je vais voir Jésus face à face? Ou est-ce que ma marche présentement sur la terre est une marche de fidélité? Que j'ai hâte de le voir. Si je crains de revoir le maître à cause des reproches, il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui doit être réglé. Oui, Justin. Oui, absolument. Souvenez-vous la dernière phrase qu'on a lue dans 1 Thessaloniciens 4? Oui, consolez-vous donc. Il y a de la consolation à avoir. Certainement, si j'ai des gens près de moi qui meurent dans la foi, il y a une consolation. Mais certainement, comme tu dis, il y avait des persécutions. Est-ce que je suis prêt? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'attendre avec impatience cet événement-là? Est-ce qu'il y a des gens dans mon entourage que je devrais leur présenter l'Évangile? Si je laisse mon banc vide demain, y a-tu quelqu'un à côté de moi que j'ai manqué cette occasion-là de lui partager mon espérance? Est-ce qu'il y a des gens près de nous à qui on devrait aller voir puis s'empresser de leur en parler de ce qui peut s'en venir? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie desquelles j'aurais honte si Jésus revenait aujourd'hui? C'est un temps où comment est-ce qu'on va remettre nos vies en règle sachant que Jésus peut venir nous chercher n'importe quand? Et ça peut se produire avec la mort de toute façon ou l'enlèvement. Comment est-ce que je marche sur la terre? Est-ce que c'est avec fidélité, avec une liberté de conscience, sachant que dans tous mes voies, je veux plaire à Dieu, puis que je partage autour de moi aussi l'espérance que j'ai que d'aller à sa rencontre? Dernière question, commentaire en terminant? Maranatha? Oui, absolument. OK, je vais terminer en priant. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer. Certainement, Seigneur, qu'on avait déjà lu ces textes qui nous enseignent comment est-ce que tu vas venir nous chercher. C'est bon de se le rappeler. Tu disais à tes disciples quand tu étais sur la terre que tu allais leur préparer une place. Et Seigneur, je crois que c'était pour moi aussi que tu préparais ma place. J'ai hâte que tu viennes me chercher. J'ai hâte que tu viennes nous chercher. Qu'on soit avec toi, qu'on va pouvoir te célébrer, Dieu, en face. Qu'on va pouvoir marcher avec toi, prendre du temps, Dieu, avec toi. Et on veut présentement marcher avec fidélité, comme ces hommes, ces femmes qu'on peut voir dans tes Écritures, que tu nous as laissés en exemple, comme Job, que tu étais fier, Seigneur, de présenter, même à Satan, de voir sa fidélité. Seigneur, que tu aies la même fierté de nos vies que de nos pas qu'on a sur la terre. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.